Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 13 décembre dernier disparaissait l'homme politique et alpiniste Maurice Herzog. Franck Ferrand lui rend hommage aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Il se trouve que pendant toute cette semaine, nous allons rediffuser un certain nombre des meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Et il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avions consacré une émission à ce personnage éminent qui, après son exploit de l'Annapurna, était devenu ministre du général de Gaulle. Et nous avions invité sa biographe à nous rejoindre.
Cet exploit dont vous parlez avait eu lieu le 23 juin 1950.
En effet, le 23 juin 50, une équipe d'alpinistes français sous la conduite de Maurice Herzog parvenait sur un des points culminants de la planète, l'Annapurna, altitude 8078 mètres. Voilà un tour de force qui aura marqué toute une génération et sur lequel nous allons donc revenir en détail.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
C'était il y a un an et demi. Nous consacrions une émission à Maurice Herzog, 61 ans exactement après sa victoire légendaire sur l'Annapurna. Nous avions évoqué plusieurs facettes du héros aux doigts mutilés qui avait hissé les trois couleurs sur un des sommets du monde. D'ailleurs, à l'époque, j'avais dit qu'il s'agissait du deuxième sommet le plus élevé après l'Everest. Et en l'occurrence, je m'étais un peu trompé, mais enfin, je suis pas un spécialiste de la géographie de l'Himalaya. J'avais parlé évidemment de toute la carrière politique, et Dieu sait qu'elle a été assez brillante, de Maurice Herzog. Il a été ministre du général de Gaulle, en tout cas il a été son secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et c'est vrai qu'il a incarné une sorte d'énergie gaullienne pendant de nombreuses années. J'avais parlé du maire de Chamonix, bien entendu, et de l'alpiniste, et de l'incarnation en quelque sorte de la montagne française. Et puis, j'avais rappelé l'importance de cet exploit français de juin 50. Juin 50, c'est très facile, c'est exactement 10 ans après juin 40. Et on peut dire que l'exploit de l'Annapurna effaçait un peu dans la mémoire des Français de cette période de la reconstruction, de l'immédiate après-guerre, effaçait les mauvais souvenirs de la défaite et de l'occupation. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais le récit qu'a publié à l'époque Maurice Herzog, ce récit s'appelait Annapurna premier 8000, ce récit a été le plus grand best-seller de l'après-guerre, non seulement en France, bien entendu, mais à travers le monde entier, puisqu'il a été traduit dans de très nombreuses langues et qu'il est devenu un véritable phénomène de librairie, aussi bien en Amérique du Nord que dans un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe. Ça s'est vendu, tout ça, à des millions d'exemplaires. Maurice Herzog lui-même disait 15 millions. Il semblerait qu'en fait, on soit plus près de 12 millions. En tout cas, c'est colossal et ça représentait, selon l'expression de Maurice Herzog lui-même, une pile de livres haute comme plusieurs fois l'Annapurna. Alors, pour parler de tout ça, à l'époque, j'avais invité Catherine Debac, la biographe et l'amie de Maurice Herzog. Catherine Debac ne cachait pas sympathie, c'est plus que de la sympathie, sa très grande admiration pour le personnage auquel elle avait consacré ce gros livre. Et vous allez voir que l'émission que nous avions faite était évidemment très favorable au personnage. Vous allez l'entendre, cette émission, ou la réentendre dans quelques minutes, et vous pourrez juger de son objectivité ou de sa subjectivité. En tout cas, pour tout vous dire, sur le moment, je n'ai pas eu conscience de faire une quelconque hagiographie du personnage, même si, évidemment, il est toujours difficile de se garder d'une petite part de grandiloquence dès lors qu'il est question de très grands destins. Et pourtant, que n'avons-nous pas entendu dans la foulée de cette émission qui s'est faite en direct? Nos boîtes aux lettres, la vraie autant que l'électronique, se sont remplies de courriers et de messages critiquant le grand homme et le critiquant assez vertement pour un certain nombre de messages. Alors les critiques, disons-le, allaient dans deux directions essentiellement. Certaines m'ont reproché de n'avoir pas fait allusion aux petitesses supposées du héros. Quand je dis petitesse, je parle là des petitesses privées de sa vie privée. Vous savez que il y a peu de temps, là, en septembre dernier, sa fille Félicité a fait paraître un ouvrage où, évidemment, alors l'ouvrage est présenté comme un roman, mais elle est assez critique et même extrêmement critique contre son père. Je vous lis juste un paragraphe de ce livre. Au fil de ses succès politiques et mondains, il avait conquis une aisance étourdissante en société et alternait un paternalisme, une verve et des railleries devant lesquelles nous nous tenions quoi. J'ai perdu le souvenir des propos, mais était-ce la musique entre ses mots, le jeu de ses mains belles, brunes et mutilées, sa silhouette tendue vers l'avant, perchée sur les talons qui lui restaient grâce aux chaussures compensées qui lui étaient faites sur mesure? Ce talent de feindre ne pouvait appartenir qu'aux grands acteurs, ceux qui savent se présenter sous le jour le plus flatteur, régler d'avance l'angle de leur profil, moduler le timbre de leur voix selon l'émotion, livrer une version des faits toujours favorable, capter de manière habile la conversation. Quelque chose en lui n'était pas vrai, je l'écoutais attentivement, absorbé par son charme, ses fluides, et la constatation me vint simplement à l'esprit qu'il mentait. Alors, je n'entrerai pas, évidemment, dans toutes ces affaires, dans toutes ces querelles familiales, mais disons que la plupart des critiques portaient sur un autre aspect. Elles portaient sur la relation que j'avais faite de l'exploit de 1950, dont on sait qu'il a fait l'objet de polémiques, surtout depuis la publication des ouvrages de David Roberts en 2000 et d'Yves Ballu en 2008. Vous savez que David Roberts, notamment, a mis en cause l'exploit lui-même en disant qu'en vérité, les héros étaient tellement fatigués, tellement épuisés, à bout de force, qu'ils n'auraient pas fait les derniers 50 mètres vers les sommets et pris des photos qui, en vérité, seraient un peu des photos truquées. C'est en tout cas ce qu'il avait prétendu en 2000. Ça a fait un gros scandale à l'époque. Et puis, on sait par ailleurs que le fils de Louis Lachenal, Jean-Claude Lachenal, a publié en 1995 une version intégrale du récit de son propre père. Et dans cette version, la légende forgée par Maurice Herzog se trouvait sensiblement écornée. Alors évidemment, tout ça est très intéressant et ça mérite qu'on en parle. Je n'exclus pas de consacrer un jour une émission à l'ensemble de ces polémiques. Mais à l'époque, tel n'était certes pas le propos. Nous avions comme idée d'émission de rendre hommage aux héros de nos pères. C'était donc en juin 2011. Cet hommage aujourd'hui, je pense qu'il s'y est parfaitement bien à une période qui, qu'on le veuille ou non, demeure une période de deuil.
La Hotte de Noël Europe 1.
Alors, la Hotte de Noël, il faut en profiter car c'est l'avant-dernier jour. Nous avons aujourd'hui dans notre Hotte de Noël des ballotins. Eh oui, un assortiment gourmand de chocolat Jeff de Bruges, composé d'un ballotin, de truffes et de savoureuses orangettes. Pour vous inscrire au tirage au sort, Franck, il faut envoyer le mot de passe histoire, H-I-S-T-O-I-R-E, par SMS au 739-21, 50 centimes plus le coût d'un SMS, ou alors vous appelez le 39-21, 34 centimes d'euros par minute. Bonne chance à tous.
En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1.
Cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Quand on aime la montagne, que l'on est alpiniste, que l'on vit entre deux courses, deux ascensions dans cet univers mystérieux des grandes cimes, il n'est pas possible de rester longtemps sans penser à l'Himalaya, les plus hautes montagnes de la planète. Maurice Herzog, fils d'alpiniste, a été initié dès son plus jeune âge. Dans l'entre-deux-guerres, on l'a vu multiplier les expéditions en montagne, des expéditions qui étaient préparées au chalet familial de la Chavanne, près de Chamonix. Vous imaginez si lui aussi a pu en rêver de l'Himalaya. Il faut préciser tout de même que, depuis la fin du 19e siècle, une centaine d'expéditions avaient été lancées à l'assaut du toit du monde. Des expéditions qui avaient été lancées depuis l'Angleterre, depuis la Suisse, l'Allemagne, l'Italie. Beaucoup d'alpinistes ont perdu la vie là-bas dans l'Himalaya. Côté français, il y a eu un seul essai. Le président du groupe de haute montagne de l'époque, Henri de Ségogne, avait lancé l'idée d'aller escalader l'Himalaya en 1933, mais l'autorisation d'entrer au Népal à l'époque lui avait été refusée. Finalement, l'expédition a eu lieu en 1936 au Karakoram, à la frontière sino-indienne. Elle va tenter cette expédition l'ascension du Hidden Peak à 8068 mètres, mais elle se solde par un échec dû surtout à l'arrivée prématurée de la mousson. après la guerre. En 1948, Henri de Ségogne, avec Lucien Deville, le nouveau président du groupe de haute montagne, va conserver cette ambition d'aller tutoyer l'Himalaya. Mais la situation diplomatique entre-temps s'est beaucoup compliquée. Le Tibet est occupé, le nouveau Pakistan est devenu très dangereux, on n'entre plus du tout au Népal. Bref, les pays qui possèdent un plus de 8000, ça veut dire un sommet de plus de 8000 mètres, ces pays sont devenus inaccessibles. Alors tout de même, en bénéficiant d'un rapprochement diplomatique avec le Népal, une expédition française commence à être envisagée à la fin des années 40, soit dans la vallée de la Krishna Gandaki, où se trouve notamment l'Annapurna, Annapurna ça veut dire la déesse de la fécondité en sanskrit, soit dans le massif du Gaurisankar. C'est en fait la première possibilité, c'est en fait la première vallée qui est retenue. L'expédition est donc programmée et son chef est désigné à l'unanimité. Ce sera Maurice Herzog, cet homme qui bénéficie d'un mental d'acier, d'une grande expérience de la montagne et qui, au demeurant, a exercé des responsabilités au sein de la résistance, ce qui, dans ces années d'après-guerre, est évidemment très important. 8 hommes sont sélectionnés parmi les meilleurs alpinistes français. Maurice Herzog sera secondé par Francis de Noyelle, par ailleurs, qui est un diplomate local qui va servir d'officier de liaison et d'interprète avec les autorités sur place. Les préparatifs ne demandent pas moins de 4 mois. Aux 8 alpinistes seront adjoints 157 porteurs et 9 sherpas, des guides de là-bas. Le chef de tous ces gens-là, leur Sirdar, a déjà participé à 6 expéditions dans l'Himalaya. Donc, quand on dit qu'il y a 157 porteurs, vous dire que ça fait beaucoup de monde, mais en vérité, ça fait pas tant de monde que ça si vous comparez ce chiffre à celui d'autres expéditions qui pouvaient compter jusqu'à 500, 600, jusqu'à 1000 porteurs. L'équipe française quitte l'aéroport du Bourget au petit matin du 30 mars 1950. Il faut imaginer les journalistes, les flashs des photographes, les yeux humides des proches qui sont venus dire au revoir. Les jeunes alpinistes sourient, bien sûr, ils n'en ont pas moins le cœur un peu serré. Ils emportent avec eux 6 tonnes de matériel, dont 1,5 de vivres et 250 kilos de médicaments. Maurice Herzog a pris avec lui 4 livres, 4 bouquins qu'il pense avoir le temps de lire. La Bible, tout simplement, les pensées de Pascal, la religion de l'homme de Rabindranath Tagore et puis les leçons de géométrie élémentaire du professeur Adamar. Sur place, toute l'équipe a pris un train jusqu'à Nautanwa, qui est le terminus indien, à quelques kilomètres de la frontière népalaise. Là, on peut dire que la grande voie du Tibet s'ouvre devant ces hommes. Une première marche d'approche leur paraît interminable. C'est 200 kilomètres à travers des zones très chaudes, infestées de paludisme. Faut arriver jusqu'au cœur des montagnes, bien entendu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipée ne passe pas inaperçu, la plupart des habitants de ces régions n'ont jamais vu d'Occidentaux, tout simplement, c'est la première fois. Et puis soudain, par un matin ensoleillé, l'expédition découvre 2 géants blancs. Ils sont pantois devant ces masses de l'Annapurna et du Dholagiri, 2 montagnes absolument gigantesques, couvertes de neige et néanmoins très harmonieuses dans leur forme.
Hello. Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Et cet après-midi, on vous propose une balade au sommet de l'Annapurna, l'exploit accompli par Maurice Herzog et raconté par Franck Ferrand.
De voir ces immenses sommets s'élevant à une hauteur prodigieuse, ruisselant de lumière, de glace, étincelante au-dessus des vapeurs des vallées népalaises, ce fut un spectacle pour moi vraiment étonnant. Je m'en souviens encore. Pour la première fois, l'Annapurna dévoile ses secrets. Jamais je n'avais vu une montagne aussi grande dans toutes ses proportions. C'est un monde à la fois rutilant et menaçant où l'œil se perd. Alors, le 14 avril, un premier gros problème va retarder l'expédition. Les porteurs ont décidé de faire grève, figurez-vous. Seulement devant l'extrême fermeté de l'officier népalais qui est chargé d'accompagner l'expédition, qui s'appelle Rana, le groupe reprend néanmoins la marche. Jusqu'au dernier village, Tukusha, un village totalement isolé dans une profonde entaille de la chaîne himalayenne. On est là quand même à 2600 mètres d'altitude. C'est donc le dernier village habité avant la haute montagne vierge. C'est ici qu'est installé le camp de base, le QG si vous voulez. Juste en surplomb, vous avez le Dholagiri, donc cette immense montagne. Avant d'atteindre l'Annapurna, il va falloir contourner une haute chaîne qu'on appelle les montagnes bleues. Soit la contourner par le sud, soit la contourner par le nord. Il va falloir se décider. Les alpinistes étudient toutes les possibilités. Ils consacrent 20 journées de suite à repérer les lieux. Et en fin de compte, ils réalisent que le paysage réel ne correspond pas du tout à celui qu'ils ont sur leur carte. Vous voyez qu'on est dans des régions qui sont très mal cartographiées à l'époque. Impossible notamment d'attaquer le Dolagiri sans prendre des risques excessifs. Herzog prend donc la décision d'abandonner ce premier objectif et de se concentrer sur l'Annapurna. 8078 mètres, je rappelle. C'est une décision que tout le monde admet finalement. Et le 17 mai, les premières cordées d'alpinistes parviennent au pied de l'Annapurna. Le lendemain, elles accèdent au pied de l'éperon nord-est. Or, le seul moyen d'atteindre la cime, c'est de passer par la face nord. Il ne faut pas perdre de temps parce que la mousson pourrait avoir de l'avance. Cette face nord de l'Annapurna est évidemment très délicate à aborder. Elle est dangereuse. Maurice Herzog organise 5 camps qui vont être échelonnés tous les 500 mètres d'altitude à peu près. Au cours d'une même journée, les variations de température peuvent être énormes, ce qui était très éprouvant pour l'organisme. La fatigue s'installe, il devient difficile de dormir et même de s'alimenter, parfois voire de s'hydrater. Le 21 mai, Maurice Herzog et trois de ses compagnons arrivent au camp 1 à 5100 mètres d'altitude. Le 23, le camp 2 est installé au pied de l'immense face nord à environ 5900 mètres d'altitude. Ça va servir de centre opérationnel. C'est de là notamment qu'on va pouvoir surveiller les avalanches à répétition qui sont le plus grand danger de ce genre d'ascension. Le 26 mai, le camp 3 est installé à 6600 mètres d'altitude, puis le camp 4 à 7150 mètres. Avant de partir vers le sommet, Marcel Ischak, à la demande de Maurice Herzog, envoie un télégramme à Lucien Devis, donc au patron du GPH. Donnons assaut Annapurna, voie glaciaire difficile mais permettant progression rapide, danger objectif avalanche neige et sérac faible. Camp 1, 5100, 2, 5900, 3, 6600, 4, 7150 en place. Espérons emporter victoire, physique et morale, tous parfaits. Il n'empêche que Maurice Herzog s'inquiète en lui-même du retard pris sur les prévisions. Le 31 mai 1950, Herzog choisit finalement Louis Lachenal pour s'élancer vers le sommet de l'Annapurna. Gaston Rébuffa et Lionel Terray, qui ont été littéralement épuisés et éreintés par l'installation du camp 4, lui ont paru manquer de l'optimisme nécessaire à ce genre de tour de force finale. Ce sont donc Maurice Herzog et Louis Lachenal, qui montent jusqu'au camp 3 où ils passent une nuit calme avec deux Sherpas. Le 1er juin, ils déplacent le camp 4 sur le glacier de la Faucille. Au pied d'un sérac, Maurice et Louis vont y passer la nuit. Le 2 juin, la mousson pourtant annoncée n'est pas encore là. Il fait beau, mais il fait très froid. Les quatre hommes se mettent en marche pour aller installer le camp 5. Il faut imaginer une neige extrêmement profonde. Et puis il faut imaginer surtout qu'il y a de moins en moins d'oxygène. Hein. Quand on arrive à des altitudes pareilles, on installe le camp à 7500 mètres d'altitude. Vous imaginez bien qu'il est très difficile de respirer. Je cite encore Maurice Herzog. « J'ai l'impression de grimper sur un immense toit. Tous les 10 mètres, nous soufflons. Les pieds sont insensibles tant le froid est intense. Pas de répit supplémentaire. » Au camp 5, cela devient pour nous comme un leitmotiv. La marche finit par être exténuante car sous les crampons, la neige tôlée crève et nous nous enfonçons de nouveau. Ah, s'ils savaient à quel point ils sont près du but.
De la symphonie alpestre de Richard Strauss. Restez avec nous. Dans un instant, Franck Ferrand continue son récit au cœur de l'histoire.
La Hotte de Noël Europe 1.
Et jusqu'à demain, on peut encore jouer à la hotte de Noël sur Europe 1. Alors, qu'y a-t-il dans cette hotte, Caroline ?
Plein de choses, Franck, pour régaler le palais de nos auditeurs. Dépêchez-vous, vous avez encore quelques minutes pour jouer à la hotte de Noël et tenter de gagner des assortiments gourmands de chocolat Jeff de Bruges, composé d'un ballotin, de truffes et de savoureuses orangettes. Pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe. Envoyez histoire, H-I-S-T-O-I-R-E, par SMS au 739-21, 50 centimes plus le coût d'un SMS, ou bien vous préférez le standard d'Europe 1, c'est le 39-21 que vous composez, il vous en coûtera 34 centimes la minute. Bonne chance à tous.
En décembre, c'est Noël tous les jours, avec la hotte de Noël Europe 1.
Dans votre après-midi sur Europe 1 avec Santa Baby.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
L'ascension de l'Annapurna en 1950 par Maurice Herzog, c'est ce que raconte aujourd'hui Franck Ferrand.
Et le soir du 2 juin 1950, les alpinistes, enfin ceux qui sont partis, hein, et Maurice Herzog et Louis Lachenal, vraiment la tête de cordée, s'installent dans une tente à 7500 mètres d'altitude. Ils sont frigorifiés et puis effrayés par le bruit assourdissant du vent. Maurice Herzog et Louis Lachenal ne parviendront pas à dormir. Il faut imaginer aussi la neige abondante. Quand je dis le vent, c'est un vent très très violent, bien sûr. Quand on a vu des images, des films qui ont pu être faits sur ce genre genre d'expédition, on imagine à quel point ça peut être violent. Le 3 juin 1950, dès 6h du matin, ils sont repartis. Vous avez bien noté la date, hein, 3 juin 1950. Le temps est compté maintenant parce qu'on se dit que la mousson pourrait arriver. Il va leur falloir 8 heures pour parvenir au pied de la falaise terminale qu'ils doivent contourner. Il leur faut encore escalader d'immenses crevasses. Les hommes éprouvent de plus en plus de difficultés à respirer. À cette altitude, il n'y a plus qu'un tiers de l'oxygène normal, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver, nous, sur le plancher des vaches. Maurice dit il dira qu'il ne pense à ce moment-là qu'à tenir. Louis craint pour ses pieds. Il faut dire que la température est très basse. On est descendu entre moins 50 et moins 60 degrés. On risque de se geler les pieds. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup ? Lance Louis. Maurice réfléchit. Je suis anxieux, dira-t-il, responsable, je dois penser et prévoir pour les autres. Sans doute, le danger est-il réel ? L'Annapurna justifie-t-elle de tels risques ? Louis hésite, mais il décide de suivre Maurice. Il y a là un couloir extrêmement raide qui s'élève devant les deux alpinistes et puis soudain, à 14 heures précises, ce 3 juin 1950, alors là, mais oui, écrit Maurice, un vent brutal nous gifle. Nous sommes sur l'Annapurna, à 8078 mètres. Oh, notre cœur déborde d'une joie immense.
De la bande originale de Cliffhanger Frank.
L'exploit est historique. Les Français viennent donc de conquérir le premier 8000 mètres de la Terre. Ah, ils prennent des photos, bien entendu. Maurice Herzog ressemble un peu à un cosmonaute avec son équipement, c'est ce qu'il dira. Louis Lachenal décide de redescendre très vite. Maurice Herzog, lui, a du mal à quitter les lieux. Il se décide enfin à suivre Louis, persuadé qu'il va le rattraper. En fait, c'est pas si simple. La pente lui indique le chemin malgré un épais brouillard, mais dans la précipitation, Maurice Herzog perd ses gants. Or, la mousson fait déjà ressentir ses effets. Il y a une petite grêle qui lui déchire le visage sous un vent, qui est toujours cette espèce de vent à peine croyable. Herzog est à bout de souffle. Il finit par atteindre le camp 5 où attendent Lionel Terray, Gaston Rébuffat et leurs deux Sherpas. Ils sont venus à leur rencontre depuis le camp 4. Là, c'est l'enthousiasme. Mais tout de même un enthousiasme minoré par l'inquiétude de tous devant l'état des mains de Maurice. « Mes doigts violets ou blancs sont durs comme du bois », écrira-t-il. Mes camarades les regardent désespérés, ils se rendent compte de la gravité de l'accident. Un grand absent là-dedans, c'est Louis Lachenal. On finit par repérer ses appels au secours. Louis est tombé sur la pente glacée qui se situe sous le camp. Il a perdu son piolet et un crampon. On part à sa recherche. Il n'est plus question pour Terray Rébuffat d'envisager de conquérir le sommet. Là, on est plutôt en train de penser à redescendre. Il faut très vite soigner les mains et les pieds de Maurice et de Louis qu'on a fini par retrouver. Dehors, la tempête se déchaîne. Au matin, les quatre alpinistes repartent vers le camp 4 où Cousy et Chasse les attendent. La tempête redouble encore, Maurice et Louis ont besoin de soins urgents. Des avalanches se déclenchent de toutes parts dans un bruit terrifiant. Il faudrait aussi évoquer toujours ce petit grésil, hein, puis ce vent violent, et puis les crevasses, et puis les séracs qui font perdre du temps. Maurice Herzog constate avec effroi que ses quatre membres gèlent à nouveau. La nuit tombe, tous sont gravement gelés. Au matin, après avoir essuyé une avalanche, ils ont le plus grand mal à retrouver chaussures, caméras, et surtout les négatifs de certaines des photos qui ont été prises au sommet. Maurice perd espoir, il pense que la fin est proche, il demande à son ami Lionel Terray de poursuivre sans lui, pour que le groupe ait une chance de s'en sortir. Et là, c'est un refus catégorique. Terray lui répond « On t'aidera. Si on s'en sort, tu t'en sortiras aussi. » Chance inouïe, les hommes demeurés au camp 2 vont finir par entendre des appels au secours des alpinistes en perdition. On va pouvoir organiser leur évacuation. Un premier groupe, Maurice Herzog, Gaston Rébuffat et deux Sherpas, poursuit la descente dans des conditions très difficiles. Maurice, à ce moment-là, est touché par une ophtalmie. Alors qu'il se trouve sur le point d'atteindre le camp 3, une plaque de neige se détache en portant tout sur son passage. Maurice Herzog fait une chute vertigineuse de plus de 150 mètres. Il est ballotté d'un sérac à l'autre.
l'autre, la corde s'enroule autour de lui et finit par l'immobiliser, le laissant la tête en bas au-dessus du vide. Gaston Rébuffa va s'en sortir aussi alors qu'il n'avait pas voulu s'encorder. Ils rejoignent enfin le camp 2. Le médecin va devoir annoncer à Maurice Herzog qu'il va perdre une partie de ses mains et de ses pieds. Gaston Rébuffa, touché au pied, est installé comme Maurice sous une tente spéciale. Lionel Terray arrive, aveugle, tenu à la corde par Marcel Schatz et soutenu par un Sherpa, suivi de Louis Lachenal qui risque donc de perdre ses orteils. Enfin, Jean Cousy, complètement exténué. C'est le 8 juin que la dure victoire sera annoncée par télégramme. Reste à reprendre la longue marche, parce qu'on a fait le chemin dans un sens, mais il faut le faire dans l'autre pour aller retrouver la civilisation. L'état de Maurice, pris de fièvre, est inquiétant. Il va finir par plonger dans le coma. On lui injecte de la pénicilline à haute dose. À ce moment-là, dira-t-il, je ne désire que la mort. Il ne désire la mort plus que tout. La nouvelle de l'extraordinaire exploit de Maurice Herzog et de ses compagnons va faire le tour de la planète. En vérité, elle a fait le tour de la planète bien avant qu'eux-mêmes soient de retour parmi les hommes. Fantastique victoire que cette victoire sur l'Annapurna. Et pour Maurice Herzog, ce sera seulement la page la plus inouïe d'une existence incroyablement riche. Pour en parler, j'ai convié à nous rejoindre Catherine de Bac, sa biographe et amie. Elle va nous parler de ce grand bonhomme dans un instant.
Plus.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et on vous retrouve avec votre invité, Franck. Vous recevez aujourd'hui Catherine de Bac.
Catherine de Bac, que les auditeurs de Repin connaissent, se rappellent sans doute. Catherine de Bac a été athlète de haut niveau et qui s'est fait remarquer, j'allais dire, au milieu des années 90 pour avoir dénoncé un certain nombre de pratiques dans le sport et notamment de violences sexuelles. Catherine de Bac, qui est l'amie et la biographe de Maurice Herzog. Vous avez sous-titré votre biographie « Le survivant de l'Annapurna ». C'est évidemment le plus grand exploit de la vie de Maurice Herzog, mais ce n'est pas le seul, Catherine de Bac.
Oui, absolument. Je pense que dans la vie de Maurice Herzog, son exploit à l'Annapurna est très important. Mais en fait, pour Maurice Herzog, toutes les parties de son existence sont importantes, que ce soit son enfance, la résistance, la période de la guerre, évidemment.
Mais la résistance a joué un rôle très formateur. C'est
oui,
très fondamental pour lui.
Absolument. Et d'ailleurs, je crois que l'une des raisons qui fait qu'il a été choisi pour être le chef de l'expédition est toute cette expérience au cours de cette période de la guerre et de la résistance où sa vie était mise en danger 24 heures sur 24.
Cette habitude finalement de tutoyer la mort, hein, d'être comme ça constamment sur le fil.
Oui, absolument. Et je pense que justement dans le titre Maurice Herzog, le survivant de l'Annapurna, j'ai voulu expliquer dans ce parcours absolument exceptionnel comment Maurice Herzog a appréhendé les différentes étapes de sa vie, parce qu'en fait il a toujours vécu en étant en état de survie et toujours dans l'excellence, dans quelles que soient les responsabilités au plus haut niveau qu'il a pu avoir ensuite.
Alors moi je me rappelle l'époque où la télévision osait encore diffuser de longs films en noir et blanc, pas toujours de très haute qualité, je parle purement technique, oui, et matériel. Et notamment, je me rappelle avoir vu enfant ce film de Marcel Ishak qui s'appelle Victoire sur l'Annapurna, oui, qui m'avait laissé complètement transi devant mon écran. C'est un souvenir, oui, très fort. J'aimerais qu'on en écoute, pour se remettre dans l'ambiance, oui, si je puis dire, qu'on écoute quelques extraits de ce film de 1953.
Là-bas, après avoir connu la plus belle victoire que je pouvais souhaiter, je me suis trouvé engagé avec mes compagnons dans une terrible aventure. Si nous avons survécu, c'est grâce à une succession de miracles qui encore maintenant me paraissent incroyables. Longtemps frôlé par la mort, j'ai dû passer des mois sur un lit d'hôpital. Mais la vie a fini par triompher, et malgré mes blessures, je retrouve aujourd'hui ces montagnes que j'aime, alors que je croyais devoir y renoncer à jamais. Me voici en montagne à nouveau. Et c'est ce même piolet que j'ai planté au sommet de l'Annapurna quand j'en réussis l'ascension avec mon camarade Louis Lachenal. Pour la première fois ce jour-là, des hommes ont atteint une cime de plus de 8000 mètres. Deux fois la hauteur du plus haut sommet des Alpes, le Mont Blanc, que voici. Il existe à des milliers de kilomètres de la France une chaîne de montagnes sept fois plus étendue que nos Alpes et deux fois plus élevée. C'est l'Himalaya. Sur le territoire du royaume indépendant du Népal, s'élèvent une dizaine de sommets dépassant 8000 mètres, et parmi eux l'Annapurna. C'est la conquête de ce sommet que mes camarades et moi, nous allons vous raconter.
Il y a un petit côté aussi, conférence de connaissance du monde où on allait gentiment somnoler quand j'étais petit. Ça fait plaisir d'entendre ces noms de Marcel Ichac, de Louis Lachenal, de Gaston Rébuffat, parce qu'on parle bien sûr toujours de Maurice Herzog, oui. Mais tous ces alpinistes ont joué un rôle essentiel. C'est beaucoup plus, on dit souvent, l'expression c'est un travail d'équipe. Là, c'est
absolument.
Bien plus qu'un travail d'équipe. C'est une véritable fusion collective en vue d'un but qui est un dépassement incroyable. J'en profite pour signaler la biographie de Gaston Rébuffat, La montagne pour amis, qui est paru chez Webeck et qui est signé d'Yves Balu, qui sort à peu près en même temps que votre biographie d'ailleurs chez Artaud, Maurice Herzog, le survivant de l'Annapurna dans l'intimité d'un destin d'exception. Nous revenons avec vous, si vous voulez bien, Catherine Debac. Nous allons revenir sur l'ensemble de la carrière de Maurice Herzog, mais un mot seulement sur cette Annapurna. Ils sont partis, ils sont tous partis, Maurice Herzog en tête évidemment, mais ils sont tous partis sans savoir exactement ce qu'ils allaient conquérir. Ils allaient dans l'Himalaya au départ.
Oui absolument, parce qu'il y avait deux grands sommets, le Dholagiri et l'Annapurna. Et en fait, pendant plusieurs semaines, ils ont fait une marche d'approche qui était très difficile. C'était vraiment la haute altitude et la vraie aventure. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'appareil permettant de joindre des gens à l'extérieur.
Et effectivement, il n'y avait même pas de cartes très fiables sur
les
régions.
Non, il y avait quelques cartes, mais qui n'étaient pas du tout fiables. Et donc, ça a été une vraie découverte. Et ils ont finalement décidé, après des semaines de marche, de faire l'ascension de l'Annapurna. Après avoir essayé d'aborder le Dholagiri.
Et qui était inaccessible en fait.
Oui, c'était trop compliqué et en même temps il y avait ces deux grandes montagnes et le temps pressait parce que la mousson, ils le savaient, n'attendrait pas début juin.
On ne connaissait pas tout à fait l'altitude exacte de ces montagnes à l'époque, on les avait estimées hein, bien entendu.
Voilà, les avait estimées mais sans en connaître, non, rien n'était fiable et il y avait beaucoup d'erreurs.
Et on savait simplement qu'elles faisaient plus de 8000, ça c'est le,
absolument,
c'est le
absolument.
Mythe absolu. Hein.
Oui, parce que ce sont les premiers qui ont escaladé une semaine, Maurice Herzog et Louis Lachenal ont été les premiers au monde à escalader une montagne de plus de 8000 mètres, après l'Everest qui était en 1953. Alors, avec Edmund Hillary.
Plus tard, les alpinistes céderont de toutes sortes de systèmes d'assistance respiratoire.
Oui.
À l'époque, comment fait-on pour respirer au-delà de 7500 mètres ?
Eh bien, ils ont respiré sans oxygène. C'est un exploit
avec
aussi.
Avec peu d'oxygène, deux tiers de moins que
oui, que absolument, deux tiers de moins. Et Maurice Herzog m'expliquait qu'en fait, il respire beaucoup, beaucoup plus lentement, il marche beaucoup plus lentement. Tout est au ralenti, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte, mais au sommet de l'Annapurna, il y avait moins 50 moins 60, donc il faut se remémorer, enfin imaginer, parce que évidemment, seuls ces deux hommes sont allés au sommet de l'Annapurna à cette époque-là et c'est vraiment un exploit en soi, évidemment.
Quelle morale, quel mental, quelle force d'âme faut-il avoir pour accomplir de tels exploits? Nous y venons dans un instant avec vous, Catherine Debac.
Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui, pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes sandbags devant la cheminée, vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que Père Noël se pointerait, hein, à savoir. Alors il est bienvenu, mais manque de bol, dis donc, avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les quiboles et s'est vautré dans la cheminée.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Quel plaisir d'écouter ce concerto pour violon de Tchaïkovski sur Europe 1. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité Vladimir Federovski. Je rappelle le titre de son dernier ouvrage, La magie de Saint-Pétersbourg, promenades insolites et splendeurs éternelles.
La couverture de cet ouvrage aux éditions du Rocher est extrêmement fidèle à ce qu'on peut ressentir. On est là, visiblement, au lever du soleil, au petit matin, avec une lumière extrêmement rosâtre qui vient caresser les façades et la flèche de l'amirauté. La magie de Saint-Pétersbourg, Promenades insolites et splendeurs éternelles de Vladimir Fedorovski. Alors tout de même, Vladimir, quand on pense aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, évidemment qu'il y a Catherine II et Pierre le Grand et Rastrelli, etc. C'est tout le cœur, on pourrait dire que c'est tout le fond de cette cité. Mais ce à quoi on pense, nous, c'est Nicolas II, c'est la cour impériale des années 1900, c'est Fabergé et ses œufs somptueux, et puis c'est Dostoïevski, et puis c'est Tolstoï et Tchekhov,
Et Pouchkine,
et comment? Surtout
et Tchaïkovski.
Et d'abord Pouchkine, on va venir à Tchaïkovski
tout Nabokov.
À l'heure. Est-ce, on a appelé ça l'âge d'argent, c'est ça?
Le 19e, il appelle ça l'âge d'or. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que Pouchkine, il crée la magie, après ça approfondit d'une manière absolument extraordinaire, et après, il y a une période que je préfère, franchement. Et je reviens dans ce livre vraiment avec beaucoup de bonheur à cela, l'âge d'argent. L'âge d'argent, parce que j'ai eu les reflets de ça avec les égéries, avec les gens de ballet russe que j'ai fréquentés autrefois. Tout ça, ça m'éblouit jusqu'à l'heure actuelle. C'est une période, comme beaucoup de choses, qui est beaucoup dénigrée. Il y a beaucoup de désinformations tout court dans notre siècle, mais sur la Russie, il y a encore beaucoup plus de désinformations. Le début du siècle, c'est la période de développement exceptionnel de la Russie. Les taux de croissance dépassaient les taux des États-Unis. Ça n'aurait pas dû de vraiment...
Vive les actions russes, hein, les emprunts russes.
Les emprunts russes. Ça n'aurait pas dû terminer. Ça s'est terminé d'une manière bizarre, mais le début du siècle, ça a donné les personnages d'exception. D'exception et le développement de Saint-Pétersbourg d'exception. C'est vrai que le cours de Nicolas II, c'est quelque chose d'époustouflant. Mais il faut dire que les fastes de Saint-Pétersbourg de début du siècle, il ne faut pas se limiter à la cour du tsar. Parce que c'était le théâtre.
Alors, quand vous dites le théâtre...
Parce que c'était le mélange, la magie de Saint-Pétersbourg. C'est l'art, la poésie et le théâtre.
Ce qu'on appelait il y a quelques années maintenant le Kirov de Leningrad, c'est le théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Ce théâtre absolument extraordinaire qui a formé les plus grands danseurs et surtout les plus grandes ballerines, évidemment, qui ensuite essaimaient sur toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis.
Oui, citons les noms qui sont de condescence. C'est Pavlova, Karsavina, pourquoi ne pas parler plus tard de quelqu'un que j'ai connu, Nureyev, un grand monument aussi de cette période. Et puis ça a donné réciproquement, parce que les va-et-vient entre les Français et Saint-Pétersbourg, c'est particulier. Je vais vous dire quand même, Saint-Pétersbourg a payé ses dettes, puisqu'il a envoyé à Paris quelqu'un qui a ébloui les Français, c'était Diaghilev, avec cette fois-ci Nijinsky, Karsavina et les ballets russes qui ont fait le triomphe au théâtre de Champs-Élysées, et puis tant d'autres à côté, Picasso, Stravinsky, encore une fois le symbiose de tout, mais le reflet quand même exactement de ce théâtre extraordinaire, avec la tradition qu'il ne faut pas oublier encore une fois l'affinité, disons tout à fait évidente, entre Tchaïkovski et un grand homme de ballet, Marius Petipa, parce que dans chaque théâtre du monde aujourd'hui qui compte, il y a toujours la création de Marius Petipa qui a travaillé.
Il y avait eu avant Jean-Baptiste Landais, il y avait eu Charles Didelot, il y avait toute une vieille tradition des maîtres de ballet français.
Je vois bien que vous connaissez ça parfaitement, parce que la première école a été créée évidemment par Catherine, et l'histoire que je vous ai racontée à propos de la Chétardie, vous comprenez comment elle a séduit Elisabeth, parce qu'il y avait à côté non seulement 100 000 meilleur cru de Bordeaux, mais il y avait aussi le maître de ballet.
Et voilà.
Et ça, c'est la grande tradition, Marius Petipa, et après les ballets russes, et puis ça va jusqu'à Lifar et Nureyev, ici, cette
fois-ci. Qui était-il, ce Marius Petipa? Parce que lorsqu'on va même aujourd'hui au ballet à l'Opéra de Paris, on a presque toujours chorégraphie un tel, d'après, souvent d'ailleurs Nureyev, d'après Marius Petipa. Mais alors qui est-il? C'est un Marseillais.
Attends,
déjà.
Un Marseillais qui a débarqué en Russie, qui a passé plus de 60 ans au total, énormément de créations là-bas, mais ils ont créé avec l'affinité, lui chorégraphe, Marius Petipa et Tchaïkovski, compositeur,
Tchaïkovski.
Énorme Tchaïkovski, grand succès du public, le compositeur, aujourd'hui quand même le plus joué du monde, mais comme d'habitude, dénigré par les bien-pensants et la critique musicale.
Pour se promener le long de la Moïka ou de la Fontanka, il est bon d'avoir un baladeur avec du Tchaïkovski dans les oreilles.
Absolument.
Parce que vraiment, il est l'émanation même de cette ville-là.
Absolument.
Il y a un très beau livre de Dominique Fernandez qui s'appelle Tribunal d'honneur et qui évoque cette période.
Absolument.
Avec
Absolument.
Beaucoup d'inspiration.
Qui évoque les turpitudes et les tragédies, au fait, de Tchaïkovski. Ça, c'est l'histoire qui marque l'âme slave et je dirais l'âme de Saint-Pétersbourg.
Alors il faudrait parler de tous les autres, il faudrait dire que Saint-Pétersbourg a été une ville martyre, raconter son rôle dans la révolution de 1917 puis dans le coup d'état bolchevique, raconter son rôle encore plus important au moment de la Seconde Guerre mondiale avec ce siège de Saint-Pétersbourg, tout ça vous le faites très bien Vladimir Fedorovski dans La magie de Saint-Pétersbourg, promenades insolites et splendeurs éternelles. Un mot seulement sur l'influence des pétersbourgeois aujourd'hui au sein du pouvoir russe, il ne faut pas l'oublier, autour de Vladimir Poutine, tous les gens viennent de Saint-Pétersbourg.
Mais comme d'habitude, vous êtes prémonitoire, parce que Poutine considère Saint-Pétersbourg comme la capitale diplomatique du monde. Et pour vous dire vrai, comme il est originaire de Saint-Pétersbourg, il va organiser les sommets l'année prochaine, comme on est à la fin de l'année. L'année prochaine, ce sera certainement l'année de Saint-Pétersbourg, parce que les sommets du G8 et du G20 seront organisés dans cette ville inoubliable.
Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski.